contradictions internes dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé ou enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
Des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
Cadeaux.
C'est pas en demandant poliment, vous ne voudriez pas nous enlever nosographies psychiatriques, on va l'obtenir. C'est en tapant des points sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle nous fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 et nous sommes dans l'émission On n'est pas des cadeaux. Et ce soir, avec Paul, on vous a préparé une petite émission. Ce soir, on va parler littérature, sans pédanterie, ni balai dans le cul ou seulement pour le plaisir. Depuis le temps qu'on vous fait la lecture sur Radio Canu de nos coups de cœur, de ces personnages qui prennent vie entre les pages qui peuplent nos nuits, il était temps. Il était temps de raconter les histoires de la littérature TPG. Il paraît que ça y est, on est accepté. On parle de nous à la télé. On a des maisons d'édition spécialisées qui inondent le marché. Ouais. Mais alors comment ça se fait que d'année en année, c'est toujours les mêmes textes que l'on cite? Est-ce que c'est tant que ça la profusion?
Eh oui. Et suite à l'émission qu'on vous avait proposée, où on était parti du principe qu'on ne se partageait pas assez les textes qui nous plaisaient en tant que transpédéguine, on s'est demandé pourquoi on lisait en fait, qu'est-ce qu'on lisait, et qu'est-ce que ça voulait dire pour nous en fait, avoir un rapport prononcé à l'imaginaire via la lecture, pourquoi ces imaginaires, ils sont toujours traversés de rapports de force, hein, puisque... L'imaginaire est toujours principalement hétéro. Et donc on voulait s'interroger, ce vendredi après-midi, sur ce qu'on peut trouver dans nos lectures et ce qu'on y cherche en tant que sujet minoritaire.
Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que tu as résumé ce qu'on avait envie de faire, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait pour préparer cette émission, c'est notamment d'aller interviewer des librairies, et notamment Violette & Co. Et pourquoi Violette & Co, c'est que moi, ça fait partie des ressources que j'ai, c'est-à-dire que régulièrement, quand je cherche des nouveautés, je vais regarder ce qu'elles proposent sur leur catalogue, parce que j'aime bien leur sélection, et je trouve qu'elles font un véritable travail, et du coup, elles vont nous raconter un peu le projet.
Ouais. Donc on va s'écouter un petit montage d'une conversation avec les libraires qui tiennent Violette & Co, donc qui est une librairie qui est à Paris, qui n'est pas la seule à Paris, mais qui est une des rares.
C'est une librairie qu'on a créée à deux, Catherine et moi. Elle a ouvert en février 2004. Et à l'époque, quand on a commencé à travailler sur le projet, donc un an avant à peu près, il ne restait plus qu'à Paris une librairie LGBT. Il y en avait une autre qui venait de fermer, donc on s'est dit qu'il y avait la place pour une deuxième. Et en plus, il n'y avait plus de librairie féministe depuis très longtemps. On a tous les rayons, sauf rayons pratiques. On n'a pas de livre de cuisine, de bricolage ou de guide de voyage. Tout ça. On a aussi bien beaucoup de sciences humaines et de littérature, mais aussi polar, jeunesse. On a un bon rayon jeunesse, BD, beaux-arts, voilà. Donc c'est transversal, disons, sur les rayons. Alors on n'a pas que des livres féministes ou LGBT, surtout en littérature. Qu'est-ce qu'un livre féministe, c'est pas évident à définir. Et puis aussi on a des livres simplement qu'on a envie d'avoir, en particulier qui combattent les discriminations ou qui reproduisent pas des stéréotypes. Par exemple en jeunesse, on essaye de choisir dans la masse là, de ce qui est publié, des livres qui soient qui reproduisent pas les stéréotypes. On a une culture qui se rejoint maintenant, mais qui au début était assez complémentaire. Donc une culture à la fois générale, j'allais dire, et puis une culture militante. Donc qui s'est bien sûr enrichie au fil des ans, là, puisque ça fait 13 ans maintenant quand même, mais qu'on avait déjà un peu avant. Donc déjà dès le départ, il y a par exemple des auteurs qui étaient incontournables et voilà, qui font partie de notre fond et qu'on connaissait, quoi. Après, c'est comme n'importe quelle librairie, hein, c'est-à-dire qu'il y a des catalogues de diffuseurs, et puis on choisit tout ce qui rentre dans la librairie. Il y a des maisons d'édition qui sont, disons, spécialisées. Féministes, il y en a qu'une à ma connaissance. Enfin, non, il y en a quand même plusieurs, mais vraiment qui s'affichent féministes. C'est les éditions X, qui a été créée il y a quelques années. Et qui, elle propose un catalogue, alors pratiquement que en sciences humaines, un catalogue féministe, justement, qui vient de publier Manon Labrie, Pussy Riot Girls. Il y a aussi des maisons d'édition qui, je ne sais pas si elle se qualifie de féministe, mais en tout cas, elle publie des femmes, par exemple Chèvrefeuille étoilé. Et puis, il y a quelquefois des collections. Alors, je dis des, en fait, je pense qu'il n'y en a qu'une. C'est la collection Sorcière chez Cambourakis. Donc ça, c'est pour le côté féministe. Mais Sorcière aussi traduit, enfin, publie pratiquement que des traductions, presque, pas tout à fait. Et puis, souvent fait des rééditions aussi. Après, en littérature, à ma connaissance, il n'y a pas de maison d'édition. Alors, les éditions des femmes aussi publient un peu publient de la littérature, bien sûr. Mais ça, c'est plus du côté lesbienne et gay qu'on va trouver des maisons d'édition spécialisées, comme KTM, qui est là depuis quand même 98. Dans l'engrenage, ça fait pas mal d'années aussi. Il y en avait d'autres avant. La pionnière, ça a été Geneviève Pastre. Après, il y en a eu d'autres qui ont fermé pour différentes raisons, d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il n'en reste plus beaucoup. Chez les gays, il y en a aussi, texte gay, qu'on n'a pas beaucoup ici, mais il y a H.E.O., il y a Aerosonix aussi, j'ai cassé Kitschkamp, mais c'est plutôt des livres anciens qu'il republie. En BD, il y a un petit éditeur qui connaît bien, qui est traducteur aussi, et qui s'occupe à Angoulême d'un stand de LGBT. Donc il a lancé une revue qui s'appelle LGBT BD. Et donc il y a eu 4 numéros, je crois, jusqu'à présent. Et puis qui a publié aussi Cab, par exemple, une BD lesbienne. En jeunesse, il y a Talent Haut qui publie des livres féministes, alors pas que, mais aussi d'autres choses. La Ville Brûle, par exemple, qui publie aussi des livres féministes. Par contre, quand on va du côté LGBT, alors là, il faut aller. On trouve des choses chez les éditeurs généralistes, on va dire, mainstream, un peu dans tous les rayons, quoi. D'abord, les éditeurs généralistes insistent pas forcément sur le côté lesbienne ou gay. Trans, il y en a encore moins, de toute façon. C'est-à-dire même ça apparaît pas forcément dans la présentation du livre. Fingers, my fingers, my wrists made of sand.
Vous êtes dans N'est pas des cadeaux, sur Radio Canu. Alors on vient d'entendre une partie de l'entretien qu'on est allé réaliser avec les libraires de Violette & Co à Paris et un morceau de Lydia Lunch, alors qu'on a voulu passer parce que Lydia Lunch, bah, c'est une autrice punk féministe qui écrit encore beaucoup, et c'était un morceau qui s'appelait Mechanical Flattery.
Et alors, on avait une autre question pour les libraires de Violette & Co, qui était autour de est-ce que les titres disparaissent et est-ce qu'on trouve plus de choses aujourd'hui en termes de littérature LGBT, qui est un peu l'idée qu'on se ferait comme ça de base, quoi. Qu'il y aurait une profusion maintenant.
Oui. Est-ce qu'avec l'acceptation vient la multiplicité des prises de parole et le récit pluriel?
Oui, mais ça, c'est un phénomène qui est général. Hein. Bon, par exemple, Sandra Scopetton, on la trouve plus du tout. Jeanne Galzi, qu'on trouvait plus du tout, qui avait été en partie rééditée par Double Intermine, qui était une maison d'édition lesbienne, mais c'était épuisé, qui a fermé depuis longtemps. Là, ça vient d'être réédité en partie par Gallimard, parce qu'il y avait 40 ans de sa mort, je crois. Oui. Puis il y a Chèvrefeuille étoilée aussi, qui a publié un tome, mais c'est incomplet. Il y a, sur les 4 tomes de La Surprise de Vivre, il n'y en a que 2, finalement, maintenant, disponibles. Alors, il y a quelque chose de nouveau aussi chez un certain nombre d'éditeurs, de grands éditeurs, on va dire. C'est que, alors, il y a des titres qui se vendaient plus assez, qui étaient envoyés au pilon, qui étaient détruits, soit une fois épuisés, qui n'étaient pas réimprimés. Et ça, on trouve ça chez tous les éditeurs. Hein, c'est presque inéluctable. Je trouve que depuis qu'on a ouvert, c'est assez constant. Il y a peut-être plus de titres féministes. Avec le développement aussi peut-être des études, en France on dit, je ne sais pas s'ils existent, des études féministes, mais en tout cas des études de genre ou tout ça. Donc il y a peut-être plus de titres dans féministes. Maintenant LGBT, un petit peu plus de titres trans, oui, depuis quelques années. Nous on a toujours eu un rayon assez relativement important, hein. Mais disons que je me souviens quand on a ouvert, il y avait pas mal de témoignages, c'était plutôt des récits de vie, il y a eu un peu de romans, voilà, soit intersexe, soit trans. Côté lesbien, en essai, c'est vraiment pauvre, il y a très très peu qui sortent chaque année, peut-être un par an, quoi. C'est même assez catastrophique, je trouve. Il y a besoin, il y a plein d'études qui ne sont pas faites. Bon, ça, on sait pourquoi, parce que je pense que les lesbiennes qui... Enfin, les lesbiennes... Pas lesbiennes, d'ailleurs. Les personnes qui font des recherches en doctorat ou sur des questions lesbiennes, après, ils ont beaucoup de mal à trouver de boulot. On en a discuté avec pas mal de soit de doctorantes, soit de chercheuses, soit même de profs, tout ça. Et il y a vraiment en France encore une difficulté, hein, là-dessus. Des recherches militantes, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, il y a vraiment un manque. Il y en a moins que chez les gars. En littérature, il y en a un peu moins aussi, mais il y en a régulièrement, quand même. Les maisons d'édition spécialisées publient pas beaucoup, entre 3 et 5 livres par an, je pense. Alors, il y a peut-être un petit peu plus de romans, nous, qu'on met au rayon lesbien, qui sont pas forcément que des histoires de couple, en fait, ou de coming out, ou de découverte de son homosexualité, etc. Bon. Et c'est très bien qu'il y en ait, mais il y a aussi plus qu'avant peut-être des romans qui traitent de plein de choses et qui comportent des personnages lesbiens. Voilà.
Alors, nous sommes toujours dans les studios de Radio Canu, dans l'émission On n'est pas des cadeaux, et ce soir, on parle de littérature transpédéguine. Et donc, comme vient de le dire une des libraires de Violette & Co., donc les éditions spécialisées sur les questions LGBT sortent 4 à 5 bouquins par an, versus combien de bouquins avec des histoires hétérosexuelles? Est-ce qu'on a des chiffres?
Oh bah, je sais pas, il y en a des milliers. Hein.
Oui. Donc, à notre question, est-ce qu'il y a plus de choses? Je crois pas.
Oui, hein, la réponse serait de toute façon toute relative, je crois, parce qu'on ne croule pas non plus sous les propositions.
Oui, tout à fait. Et ben voilà, donc on a répondu à notre question, en fait, bah, c'est pas la panacée, quoi. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, ce qui se passe... À notre avis, du coup.
Ah oui, 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 allons-y, notre avis.
Eh ben, c'est que c'est toujours un champ de bataille, les histoires de littérature et encore plus de publications. Et donc, il ne faudrait pas oublier que là, comme partout, les narrations minoritaires, au mieux, elles sont rangées dans une petite boîte pour pas trop déranger, et au pire, on les efface complètement. Alors, du coup, là, on va se servir d'un terme de jargon qui est issu d'un article bien aride de Pierre Bourdieu qui parlait du champ de la littérature comme champ, mais qui est quand même très intéressant puisque il vient y souligner que tout ça n'est qu'une affaire de rapport de force.
Ouais, et je pense que c'est pas le seul à le dire. Je pense que Monique Wittig parle aussi de la aussi, littérature comme un champ de bataille. Du coup, qui de l'œuf et la poule? On sait très bien que Bourdieu, il a quand même pas mal piqué ses idées aux féministes, hein, et puis il s'est bien fait publier là-dessus, parce que bah, c'est aussi un champ de bataille, la question de la publication et des idées, donc c'est super. Mais cette histoire de champ littéraire, quoi. Toi, tu le définirais comment?
Le champ littéraire, ce serait l'ensemble... En fait, c'est envisagé... le monde littéraire, donc ceux qui publient, ceux qui écrivent, ceux qui lisent, comme un espèce de grand champ de bataille dans lesquels des forces sont en contradiction parfois très violentes. Et en fait, l'enjeu de tout ça, ça va être d'établir les limites de ce qui est littéraire et ce qui n'est pas littéraire. Mmh. Avec comme conséquence la reconnaissance des produits culturels comme appartenant à des choses qui valent le coup d'être lues, publiées, transmises,
discutées,
et aussi des conséquences économiques, puisque ce qui est dans le champ de la littérature, ça rapporte de l'argent, forcément.
Et parce que de la littérature, c'est écrit par les grands hommes, comme l'histoire est faite par les grands hommes.
En général, oui.
Du coup, on pourrait dire la grande littérature, mais en fait, il n'y a même pas besoin de rajouter « grande ». Il y a juste la littérature, et ensuite, les autres champs, ça va être tout de même de la littérature, je veux dire, tu vois, c'est des choses qu'on lit.
Bon, pour moi,
la littérature, c'est...
Voilà. Papier, c'est du papier.
Voilà, clairement. Mais ça va être à ces autres champs, du coup, à ces autres morceaux, quoi, de définir, en fait, c'est quoi leur espace et pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas dans la littérature. Donc c'est soit ça, soit on les met directement dans un autre espace. Et ça, moi, je trouvais ça... assez intéressant pour parler d'un concept qu'on utilise quand même assez souvent hein, dans On n'est pas des cadeaux et qu'on rappelait au début de l'émission, qui est il y a d'un côté l'universel et de l'autre côté le particulier ou le minoritaire en fait. Et donc cette histoire autour de la littérature, ça permet d'avoir des exemples assez concrets de comment ça marche, la fabrication d'un universel. Et du coup, à quoi est-ce qu'on reconnaît un universel? Eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de se définir, comme la littérature. Et après, il y a des agents de l'universel. On pourrait considérer que plein de librairies, que plein d'émissions littéraires sont en fait des agents de maintien de l'universel, quoi. C'est-à-dire, ce qui va être considéré comme de la bonne littérature, c'est ce qui va être dans ces circuits-là. Et si on ne peut pas avoir accès à ces circuits-là, ça veut dire que forcément, on n'est pas sous les feux des projecteurs et on est dans un rapport de force. Par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il existe des règles sur ces questions de universel et minoritaire périphérique, d'après toi?
C'est des règles qui vont bouger, forcément, en fonction... En fait, je pense que ça dépend des... Tout dépend des agents qui sont sur ce champ de bataille. Ça va changer, jouer en faveur de certains auteurs plutôt que d'autres à certains moments. Et généralement, ça joue, c'est la question, c'est des auteurs, hein, puisque les autrices sont généralement bien mises à l'écart, et comme l'ensemble, l'ensemble des sous-genres de la littérature, ce que tous les critiques littéraires un peu jargonnants appellent la paralittérature, ce qui serait à côté de la littérature, ce qui serait pas vraiment de la littérature, mais quand même faut en parler parce que c'est dans des bibliothèques et il y a un moment où ça devient un livre. Et tous ces trucs-là n'accéderaient donc pas au statut, au grand statut de littérature avec un L majuscule. Et surprise, c'est souvent dans ces types d'écrits-là qu'on retrouve. Et ben, si c'est pas encore des narrations de minoritaires, c'est au moins des personnages transpédéguines. D'ailleurs, peut-être qu'on peut, on peut souligner que les romans, par exemple, d'où sont tirés les films d'Hitchcock, sont des romans de gare, ou généralement associés à la catégorie romans de gare, dont les romans de Daphné du Maurier, qui mettent en scène des personnages qui, donc là, sont pas affichés comme lesbiens ou gays, mais qu'on suppose très fortement à la marge sur des questions de sexualité. Élément qui, évidemment, quand on passe dans la grande dimension du cinéma, avec un A majuscule, parce qu'il n'y a pas de A majuscule à cinéma, enfin, sauf si on met un A majuscule à la fin, eh bien, s'efface complètement.
Oui, mais parce qu'en fait, il faut choisir où est-ce qu'on coupe. Et c'est marrant, c'est toujours les mêmes personnages, les mêmes tensions, les mêmes histoires qu'on coupe pour ensuite pouvoir parler au cinéma, quoi. Et par contre, Hitchcock, ça, c'est du grand cinéma, c'est une référence. Alors qu'a priori, l'autrice que tu cites, moi, j'avais jamais entendu parler.
Oui, c'est... c'est un peu la logique de profiter du travail d'écriture d'une autrice pour construire du scénario et convertir en fait certaines choses vers quelque chose qui parlera au plus grand nombre, parce qu'en fait on dit universel, mais en fait ça va être la part de marché la plus importante, hein. C'est pas la peine de l'universel avec un U majuscule étant une espèce de grand camouflet de cet enjeu là.
Mais oui. Après, il y a aussi des moments où nous, en tant que lecteurs transpédéguines minoritaires, on va aller chercher dans les productions culturelles de notre époque aussi on va imaginer en fait des choses qui pourraient se passer, où on va suivre des fils, par exemple sur les questions d'homosocialisation, qui pour nous nous semblent frappantes dans plein de productions, et qui, je pense, pour des personnes qui ne se posent pas ces questions-là, passent complètement à côté, et c'est ça qui permet de pouvoir accéder au statut de littérature avec un grand L, parce que c'est un peu caché.
Bah oui, c'est l'enjeu pour nous, au-delà de cette question de ce qui est admis comme étant de l'universel, qui est forcément hétéro, chose dont on parle beaucoup, on n'est pas des cadeaux. Pour nous, l'enjeu, c'est aussi une des stratégies de survie, même dans ces univers imaginaires qui sont hétéronormés complètement, très radicalement. Ça va être de chercher de lire entre les lignes, en fait, ou de lire, de convertir en fait des métaphores ou des images dans des choses qui vont nous parler. C'est le cas quand vous ouvrez un volume de BD X-Men. C'est évident que les X-Men, si on est dans la vraie vie, c'est nous, quoi. Et du coup, c'est évident que non seulement les hétéros, ils passent à côté de ça, mais nous, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une démarche où on convertit à l'inverse l'universel vers nos narrations particulières, là où, en fait, globalement, c'est le processus inverse qui amène à visibiliser des œuvres, à visibiliser des écrits, où il faudra de toute façon que ça parle au plus grand nombre ou du plus grand nombre. Et bon, c'est l'éternel truc qui veut que une narration minoritaire, de toute façon, c'est moins important parce que ça parlerait à moins de monde où c'est minoritaire, quoi.
Tout à fait. Et alors, il y a aussi des choses qui arrivent, on ne sait pas très bien pourquoi, mais ça se produit. Il y a aussi des hétérosexuels qui choisissent de fabriquer des personnages LGBT.
Oui, alors ça, c'est intense.
C'est, voilà.
C'est la cuisine du personnage LGBT par les hommes hétéros. C'est... Mais alors pourquoi on se retrouve avec ce genre de texte entre les mains? À quel moment on les arrête pas, ces mecs-là, en leur disant « Non mais en fait c'est n'importe quoi ».
Oui. Mais alors, on voudrait leur dire quand même, il n'y a pas de chance qu'ils nous écoutent, mais on voudrait leur dire, on n'est pas dupes.
Oui, nous, on vous voit.
On vous voit, voilà. On vous voit notamment parce que vous ne vous situez pas. Parce qu'en fait, quand on fait partie de l'universel, on n'a pas besoin de se situer. Et que c'est un discours qui est fabriqué depuis l'extérieur et qui est assez exotisant, quoi.
Bah oui, c'est le principe de fabriquer de la fiction à partir de documents ou d'une documentation, entre guillemets, ouais, qui serait plus ou moins importante, qui est quand même une des grosses ficelles du roman, des romans en général, bah, depuis le 19e, où la qualité d'un roman va se construire sur la documentation qui viendra l'appuyer, en fait. Sauf que, bon, généralement, le matériau que les hétéros utilisent, bah, c'est un peu n'importe quoi, et ils y lisent un peu ce qu'ils veulent.
Mais j'ai envie de dire, si vous aimez les archives, faites des archives, faites pas des romans, quoi. Hein ? Enfin, voilà. Bon, sur cette question d'universel, il y a la question de se situer, mais il y a aussi, et on tenait à le rappeler, on n'est pas des cadeaux, que pour la question des essais, les références viennent de 7 pays du monde. L'ensemble des références qu'on utilise et qu'on cite dans les travaux de recherche et les travaux d'essai viennent de 7 pays du monde. Du coup, ça, en termes d'universel ça, et de, du coup, de balayement de plein d'autres productions, ça se pose assez là, quoi. Donc c'était quelque chose qu'on avait envie de rappeler dans cette émission.
Bah oui, ce qui vaut l'eurocentrisme ou la focalisation sur un seul modèle prétendument universel, ça vaut autant dans le monde des publications de fiction que dans n'importe quel autre, que dans les essais. Et du coup, bah, comme sur tout le reste de la planète, tout est concentré. Ces agents dont on vous parle dans le champ littéraire, qui sont ceux qui ont du pouvoir et qui décident ce qui se fait ou ce qui se fait pas, sont ceux qui ont le pouvoir dans le reste de la société. C'est pas spécialement...
Une nouveauté, mais on peut quand même le rappeler. Bien du sûr, coup, ouais. C'est des hommes blancs qui viennent de l'Occident et qui ont de la thune, quoi.
Et qui sont hétéros.
Et qui sont hétérosexuels, évidemment.
Et évidemment. La plupart valides.
Tout à fait. Mais comment ça se fait que nous, ce qu'on produit, ça, pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression que ça... Comme c'est un champ de bataille, c'est jamais fini, quoi. Du coup, il n'y a pas un moment où on va être victorieux et victorieuse, mais en tout cas, on peut remarquer que nous, ce qu'on fabrique en tant que minoritaire, et ben pour l'instant, c'est pas devenu l'universel, quoi. Je pense que c'est ça qu'on se fixe à un moment ou pas, je sais pas, c'est encore en questionnement. En tout cas, on peut avoir le luxe de se demander qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura accès à l'universalisation, mais en tout cas là ce n'est pas le cas, et en sachant que les rapports de pouvoir sont multiples et qu'on est placé à des endroits différents en fonction de qui on est et tout ça. Mais du coup, une des pistes, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait notre universel il se vend pas parce qu'on est minoritaire.
Et oui. Un des obstacles qu'on rencontre quand on veut proposer une narration minoritaire au plus grand nombre, c'est évidemment celui de la diffusion commerciale, puisque ça s'appuie sur cette histoire de le minoritaire ne fait pas vendre. Et hélas, c'est des choses qui se vérifient, entre guillemets, puisque les lois du marché de l'édition font que des titres qui disparaissent, on les compte plus, en fait. Et on est vraiment sur... une logique de patrimoine disparaissant, en fait. Et c'est assez tragique pour les narrations TPG.
Surtout que ça nous fait croire qu'on est dès de la dernière pluie, quoi. Ça nous fait croire cette espèce d'imaginaire de y aurait une ligne de progrès, et depuis les années 70, ça y est, ça serait bon, tout le monde serait libéré en Occident, et il n'y aurait plus que d'autres problèmes que dans notre pays, qu'ici, il n'y a aucun souci. Alors c'est par exemple oublier la manif pour tous, oublier Trump, oublier plein de choses. Mais du coup, le fait de ne pas conserver d'archives et de penser qu'on est né avec... la liberté d'être qui on veut, c'est vraiment du foutage de gueule, et c'est invisibiliser toutes les luttes, et justement c'est faire comme si ce champ de bataille il n'existait pas et qu'on était sur une ligne de progrès exponentielle, quoi. Alors après, il y a quand même des initiatives qu'on a envie de soulever. Il y a notamment les initiatives des bibliothèques, que ce soit par exemple des bibliothèques alternatives comme la bibliothèque féministe de Grenoble, qui met à disposition gratuitement des ouvrages, qui fait des recherches et qui essaye vraiment d'être sur un travail de valorisation d'une écriture qui là est pas minoritaire, qui est minorisée, parce que je veux dire, il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète, quoi. Et il y a aussi la question des éditions spécialisées et des archives LGBT et de l'accès aux archives LGBT. Voilà. Peut-être ça commence à faire beaucoup, on aurait qu'à s'écouter une petite musique. T'en penses quoi ?
Parfait.
Alors on fait ça. Du coup, on va écouter La parole de l'autre de
Véronique Pestel.
Voilà, et je remercie Sabine de m'avoir fait découvrir cette chanteuse lesbienne assez formidable.
Qu'importe ce qu'on dit, c'est la vie qui décide. Elle passe entre les lignes en s'excusant du peu. Et ça n'est pas sa faute si elle ne coïncide ni avec ce qu'on dit, ni avec ce qu'on veut. Je vais parler d'un temps que tu vas reconnaître. C'est le tien, tu y mets ton courage et tes mots. Mais chacun ne voyant midi qu'à sa fenêtre, tu ne recevras de moi que ton propre écho. La parole de l'autre est souvent décevante. La parole de l'autre est souvent en dessous. Car qui parle est toujours une énigme vivante. Et même quand on s'applique, on comprend pas tout. Les mots ne parlent bien qu'à la cause commune. Quand tout un peuple crie pour sa vie, pour son pain. Quand le mal ne fait qu'un, le verbe fait fortune. Et ce que dit un seul est compris par chacun. Ça n'est pas tant sans faux le cas dans nos parages. Sur le bien commun, le mal est solitaire. Les drames, ils sont nombreux, honteux et sans partage. Plus ils sont variés, moins ils sont solidaires. La parole de l'autre n'y est pas dérangeante. La parole de l'autre n'y est qu'en dessous. Mais qui parle qu'elle a besoin de nous. Qu'importe ce qu'on dit, tout est dans ce qu'on porte. À qui sait regarder, tout être se confie. Et il ne faut pas croire qu'une parole forte peut se passer du cœur pour atteindre l'esprit. Musique est là pour ne pas qu'on s'ennuie. La parole ne sert qu'à entrouvrir la porte. Si l'amour fait le reste, on se sera compris.
Toujours dans On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu. Ce soir, nous parlons du champ de bataille qui est la littérature, c'est-à-dire un espace où il y a des forces en présence qui luttent et où il y a des enjeux qui sont vitaux, dans le sens où le risque pour la littérature minoritaire, c'est de disparaître. Voilà. Et en parlant de ça, eh bien, nous avons envie de parler d'un texte qui, je pense, a failli disparaître, qui est La pensée straight de Monique Wittig, donc qui est un texte qui a été édité à la base par Ballant dans le Rayon Gay, donc une maison d'édition LGBT, et qui était plus disponible depuis assez longtemps, et qui là vient d'être rediffusée, réédité chez Amsterdam, du coup, qui est plutôt connu pour son orientation de texte autour du féminisme. Donc c'est assez marrant ce glissement, en fait, depuis une littérature LGBT à une littérature féministe. Dans tous les cas, Monique Wittig, c'est une auteure formidable et qui écrit des essais et des romans. Et alors, je vais vous lire un passage de Le point de vue universel ou particulier, le passage 4. Tout écrivain minoritaire qui a conscience de l'être entre dans la littérature à l'oblique, si je puis dire. Écrire un texte qui a parmi ses thèmes l'homosexualité, c'est un pari. C'est prendre le risque qu'à tout moment, l'élément formel, qui est le thème, surdétermine le sens, accapare tout le sens, contre l'intention de l'auteur qui veut avant tout créer une œuvre littéraire. Le texte, donc, qui accueille un tel thème, voit une de ses parties prises pour un tout, un de ses éléments constituant du texte pris pour tout le livre, pour tout le texte, et le livre devient un symbole, un manifeste. Quand cela arrive, le texte cesse d'opérer au niveau littéraire. Il est l'objet de déconsidération, en ce sens qu'on cesse de le considérer en relation avec les textes équivalents. Cela devient un texte à thème social, et il attire l'attention sur un problème social. Quand cela arrive à un texte, il est détourné de son but premier, qui est de changer la réalité textuelle dans laquelle il s'inscrit. En effet, du fait de son thème, il en est destitué. Il n'y a plus accès. Il en est banni, souvent simplement par la mise au silence et l'épuisement de l'édition. Il ne peut plus opérer comme texte par rapport à d'autres textes passés ou contemporains. Il n'intéresse plus que les homosexuels. Pris comme symbole ou adopté par un groupe politique, le texte perd sa polysémie, il devient univoque. Cette perte de sens et le manque de prise sur la réalité textuelle empêchent le texte d'accomplir la seule opération politique qu'il puisse accomplir, introduire dans le tissu textuel du temps, par la voix de la littérature, ce qui lui tient à corps. C'est pourquoi, sans doute, Djuna Barnes redoute que les lesbiennes fassent d'elle leur écrivain, et ce faisant, réduisent son œuvre à une dimension. En tout état de cause, et même si Djuna Barnes est lue d'abord et massivement par les lesbiennes, il ne faut pas la destituer et la tirer dans notre minorité. Non seulement ce n'est pas lui rendre service, mais ce n'est pas non plus nous rendre service. Car là où l'œuvre de Barnes peut le mieux opérer, pour elle et pour nous, c'est dans la littérature.
Et on retrouve là ces boîtes qu'on évoquait tout à l'heure, à travers cette idée de niche, en fait, qui se constituerait là, dans la description qu'on fait Wittig, à partir de thèmes, en associant un public et un thème. Et donc là, ce que Wittig vient souligner, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, en faisant des textes symboles, enfin en transformant des textes en symboles, on les retire en fait du champ de bataille, alors qu'en fait, ils ont sans doute les armes pour y faire des choses, pour y déplacer des choses, et c'est là, c'est l'enjeu que Wittig place dans ce... par exemple, chez Djuna Barnes, c'est la faculté qu'elle pourrait avoir de déplacer les lignes de force dans ce champ de bataille, plutôt que de se retrouver spécialisée quelque part, et donc...
Plus dans le champ de bataille.
Plus dans le champ de bataille.
Ben oui. Et moi, je pense que j'avais envie de partager ce texte-là avec vous, parce qu'il m'a vraiment posé question. Parce qu'il y a, j'arrive pas à comprendre en fait s'il y a des textes qui ne peuvent plus marcher dans. Enfin, j'aimerais bien que ça se passe autrement, mais comme j'aimerais bien qu'on vive pas dans un monde pourri, en fait. Du coup, d'une certaine manière, j'entends, mais je trouve ça aussi important de pouvoir faire les textes nôtres, dans le sens où il y a plein de moments où il y a des textes qui sont ré-hétérosexualisés, notamment par le passage par le cinéma. Là, cette année, on a eu quand même des beaux exemples. De rendre des lesbiennes hétérosexuelles pour le plaisir.
Tranquille.
Alors que historiquement c'est faux, que quand c'est des personnages de fiction ça n'existe pas. Là par exemple on peut citer. J'ai vu que la bande annonce, donc on verra la suite, mais il y a un film qui est sorti sur Emily Dickinson et dans la bande annonce j'ai vraiment pas l'impression que ça abordait le fait qu'elle aimait des femmes. Et que ses principales relations d'amour, d'amitié, de confiance étaient avec des femmes.
Et du coup que son écriture en est forcément quelque part impactée. Mais ça, c'est des choses qu'on veut pas voir, parce que c'est... Enfin, qu'on veut pas voir. Que d'autres ne veulent pas voir. C'est des choses qu'on peut Dickinson étant une auteure qui est passée dans un patrimoine et qui est du coup peut-être plus aussi dans un combat aussi vivace, engagée dans un combat aussi vivace que ne peuvent l'être des auteurs contemporains.
Elle va pas disparaître.
Elle va pas disparaître.
Elle va pas disparaître parce qu'elle est assez lue par des hétéros. Mm. Enfin, je veux dire, c'est ça l'enjeu, quoi. C'est dégueulasse.
Mm. Et du coup, les hétéros manipulent ces textes de la manière qui les arrange, puisque de toute façon, ils seront toujours enclins à gommer cette partie-là.
Mais parce que c'est vraiment cet imaginaire de on peut écrire sur tout et n'importe quoi. Enfin.
Et au final, peu importe
qui on est pour écrire.
Qui on est. J'ai l'impression qu'en littérature, c'est un truc qui fonctionne à fond et mieux que partout ailleurs. Cette idée de genre, non, mais au fond, on s'en fout de qui est l'auteur. L'important, c'est la beauté des textes. Bah, évidemment, c'est des conneries, mais ça marche très très bien. C'est des choses qui se transmettent et qui s'enseignent et qui sont. C'est marrant parce que dans les classes où on apprend des trucs sur la littérature et tout, dans les cursus spécialisés, il y a deux positions. Il y a ce truc de genre non, mais en fait, on s'en fout de l'auteur. Pas de la vie de l'auteur, c'est pas la biographie qui fait l'œuvre. Enfin bref, ce genre de truc. Et il y a le camp adverse qui dit que bah voilà, c'est il y a quelque part c'est ancré dans des rapports de force et tout. Mmh. Et bah généralement c'est ce camp-là qu'on nous pointe comme étant un peu des imbéciles, quoi, puisque il y a cette espèce de truc qui flotterait au-dessus de nous qui serait la beauté artistique ou la beauté littéraire qui marche très bien quand il s'agit d'effacer tout ce qui peut déranger ou faire bouger les lignes de force.
Oui.
Mais moi aussi je suis d'accord avec toi sur cette c'est ambigu, je trouve, le rapport qu'on peut avoir à ce texte de Wittig, parce qu'en même temps on aimerait vraiment que ça marche. On aimerait vraiment pouvoir être constamment dans ce rapport-là. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on a aussi besoin de ces niches, parce que c'est des endroits où aussi c'est nos bastions à nous, quoi. Si c'est un champ de bataille, il y a des endroits où il faut qu'on puisse aller se reposer, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et du coup, le truc, c'est que les narrations minoritaires, elles sont prises dans des rapports qui sont contradictoires, et en fait, il faut qu'elles se défendent sur plusieurs fronts, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on s'écouterait une petite musique ?
Allons-y.
Alors, on va écouter les Tuileries.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, deux joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet. Nous vivons en somme, on est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard, nous vivons sans gîte. Goulûment et vite, comme le moineau, haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux. Nous sommes des dieux.
Alors, c'était un morceau de Colette Magny où elle reprenait un texte de Victor Hugo. Et Colette Magny, c'est une chanteuse lesbienne qui est morte maintenant et qu'on apprécie quand même pas mal. On n'est pas des cadeaux. Voilà. Et du coup, moi, j'avais quand même envie de parler d'un autre truc que Monique Wittig, elle parle dans ce texte et qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. C'est la question de l'écriture féminine. Du coup, elle a quelque chose de dire. Qu'est-ce qui est le féminin de l'écriture féminine? Et pour moi, c'est la différence entre ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir des niches où on peut se reposer et d'avoir des placards dans lesquels on est imposé. Et du coup, c'est toute cette différence-là, en fait. Qui c'est qui fabrique cet espace de repos? Est-ce que c'est un espace de repos ou est-ce que c'est un espace d'isolement, en fait? Et que toute la question, pour moi, elle est là. Parce qu'en fait, si on considère que être femme, c'est un mythe, je veux dire, la femme, elle n'existe pas. Alors l'écriture féminine, ça n'existe pas non plus. Voilà.
Oui, c'est des. Encore une fois, c'est. J'ai l'impression que c'est toujours cette idée de d'avoir à défendre deux fois en même temps, oui. Savoir
tout à fait.
Produire quelque chose et défendre cette production, qu'elle soit pas. Enfin, c'est toujours cette ligne de force en fait qu'on a toujours à défendre.
Mais oui, parce que quand on sait qu'on n'est pas qu'on est minoritaire, qu'on n'est pas un homme blanc cis hétérosexuel, quoi. Et ben, on sait qu'on va avoir à se défendre sur plusieurs tableaux et notamment sur une spécification, je sais pas comment dire ça, mais de ce qu'on va produire, qui est où les gens vont nous situer pour nous. C'est hyper important de se situer, mais là il va y avoir un truc où on va être situé pour nous en disant c'est de la littérature LGBT ou c'est de la littérature de femmes ou vraiment.
On va nous assigner quelque part.
On va nous assigner quelque part, oui. Et avant de se quitter, on avait envie de parler de la question des stratégies, parce que du coup, si c'est un champ de bataille dans lequel il y a des espaces de repos, il y a aussi des stratégies d'attaque dans ce champ de bataille. Et on en a relevé quelques-unes pour vous.
Alors, d'attaque ou pas d'ailleurs, puisqu'on avait envie de commencer par des stratégies avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord.
Oui.
Par exemple. Pour prendre le nom et l'œuvre de Marguerite Yourcenar,
tout à fait.
Qui serait peut-être là la stratégie de se fondre dans un modèle culturel et un modèle d'écriture
hégémonique.
Tout à fait hégémonique, et en reprenant toute cette idée de produire de la parole littéraire à partir d'une documentation absolument considérable et qui est quand même chez Marguerite Yourcenar tirée d'une culture d'élite extrêmement marquée, pour finir dans les manuels d'histoire au final, puisque voilà, c'est la première femme qui entre à l'Académie française.
Oui.
À quel prix? Au prix d'une écriture qui est complètement neutralisée quelque part aussi.
Misogyne.
Tout à fait misogyne.
Aussi. Ouais. Voilà, donc ça fait partie des stratégies que plutôt on n'aime pas trop.
Plutôt non.
Après, il y a des stratégies d'avancée masquée. Du coup, ce qui permet d'être dans l'histoire littéraire, et là, un des meilleurs exemples par rapport à ça, c'est Proust.
Et oui, puisque c'est quand même difficile d'enseigner la littérature et d'enseigner Proust sans préciser qu'il était de la jaquette et que des personnages qui sont de la jaquette, y en a plein la recherche et c'est impossible de passer à côté. Cela dit, on pourrait dire que c'est une stratégie de l'avancée masquée, puisque le regard qui est porté notamment ces scènes, ou la façon dont ça peut être raconté, il est toujours, ou placé derrière un écran, ou il passe à travers une fenêtre, ou il passe à travers un trou de serrure. Ce qui fait qu'en fait, il y a une possibilité de décalage, une possibilité de négociation qui est bien plus grande, à cet endroit-là, pour dire ce type de sexualité ou de personnage, que ça ne pouvait l'être à l'époque, dans une narration qui serait frontale, puisqu'il faut quand même souligner que les stratégies, elles sont opérantes dans un contexte donné, un contexte politique donné, et celles qui ont pu être opérantes à un moment ne sont peut-être plus de la même manière maintenant.
Ben oui. Alors, on avait une autre stratégie qui était universaliser le point de vue minoritaire. Et ça, moi, je pense que toute l'œuvre de prose de Monique Wittig, elle est axée autour de ça, sur une question autour de la fabrication du sujet et du coup de l'expérimentation autour de ça. C'est une lecture qui est assez ardue, mais quand même, je vous la conseille. Et notamment, il y a donc des textes qu'on a déjà lus à On n'est pas des cadeaux, et notamment la question de fabriquer le brouillon du dictionnaire des amantes.
Oui.
Où du coup, il y a vraiment là un truc de prendre cet outil qui est censé être la vérité, le dictionnaire, et d'en fabriquer un brouillon des amantes. Voilà.
Puis peut-être qu'on pourrait citer aussi dans les textes de Wittig qui valent vraiment le coup, parce que c'est drôle aussi. Hein, on parle beaucoup de Wittig comme une autrice lesbienne, mais l'expérimentation formelle qu'elle fait, c'est assez. Ouais. C'est incroyable, quoi. Faut lire, je pense, l'Opoponax sur la fabrique du sujet, qui se passe en fait qu'autour d'un sujet collectif qui est le on, quoi. Mmh. Et c'est très très drôle. Mmh.
Alors, on avait aussi toute la question autour de fabriquer une sorte de séparatisme, c'est-à-dire fabriquer un univers où il y a pratiquement que des personnages LGBT, ou alors que toutes les personnes avec qui on va s'attacher vont être des personnages LGBT versus des personnages hétéros qui sont d'hommes hétéros qui servent vraiment à rien ou qui sont juste là pour expliciter ce que c'est la domination patriarcale. Donc à ce propos, moi je vous conseille Mireille Cardot et Nicole Lise-Bernheim, Merson ne m'aime, qui est sorti à la Maison des Femmes. Et du coup, c'est l'histoire d'une pervenche, oui, vous avez bien entendu, quelqu'un qui met des prunes, quoi, qui rencontre un groupe féministe qui s'appelle les Garces et qui s'auto-organise et dans lequel il y a beaucoup de lesbiennes et qui vont ensemble enquêter sur le meurtre de Germaine de Savoir qui est clairement Simone de Beauvoir. Et du coup, c'est un peu le parcours qu'elle va avoir pour ensuite quitter son mari, prendre des décisions pour elle et ce genre de choses, quoi. On pourrait dire que c'est un roman initiatique.
Une autre... quelque chose qui va avec, j'ai l'impression, ce déplacement du cadre, c'est peut-être proposer des narrations où le normal et la normale sera déplacée, en fait. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Lizzie Krodogger, dont le genre d'inscription, c'est aussi la fantaisie. Et du coup, ça permet de déplacer aussi ce qui fait le normal et ce qui fait le pas normal, puisque là, au lieu de se retrouver avec des personnages qui sont principalement sur cette binarité hétéro, non-hétéro, ou d'autres caractères en termes d'identité sexuelle, d'identité de genre, qui sont assez complexes et variés dans son œuvre, on se retrouve à se départager entre des mortels et des vampires et des loups-garous, quoi. Ce qui produit un effet de déplacement, quoi. La question, c'est comment on va normaliser quelque chose ou comment on va dénormaliser quelque chose. Et où est-ce qu'on va se retrouver dans ces mondes fictifs. Et ça rejoint un peu ce qu'on se disait au début de l'émission, quand on se réapproprie ce qui fait un groupe marginal dans les fictions, je sais pas, type X-Men ou dans tout ce qui court dans la science-fiction, quoi.
Et du coup, une des dernières stratégies qu'on va avoir le temps de vous raconter, et je suis sûre qu'il y en a encore plein et qu'elles sont multiples, c'est la question du scandale. Et du coup, comment il y a des auteurs qui vont avoir un enjeu autour de la question du scandale. Donc on pourrait citer Jean Genet, on pourrait citer Oscar Wilde, et où du coup c'est des personnages publics et il y a vraiment des enjeux autour du scandale. Je pense que tu avais un peu envie d'en parler, Paul.
Bah oui, parce que le scandale, premier constat, c'est comme partout dans les domaines littéraires, tous et toutes, on n'est pas égal et égaux par rapport à ces événements-là, qui sont quand même des trucs assez considérables, hein, qui forgent aussi de la réputation, qui font de discours, qui font qu'on reste aussi dans l'histoire. Ce qui fait qu'on a des histoires complètement différentes, avec des personnages plutôt de PD, donc généralement des mecs... qui produisent du scandale et qui s'appuient en fait sur des stratégies du scandale pour construire de leur position sociale, politique et littéraire. Bon, c'est le cas avec Genet, hein, par exemple. Là où on peut avoir des choses, des stratégies du retrait, par exemple. Tu citais Emily Dickinson,
oui, tout à fait.
C'est tout à fait une stratégie du retrait. Et il y a quelque chose qui joue dans cette différence entre à quel moment le scandale il est. On s'en sert comme tremplin ou on le subit complètement. Il faut voir le scandale énorme qu'a été la publication du Puits de Solitude au début du XXe siècle, qui est un texte sur une romance de femmes et qui a fait un scandale monumental et qu'on lit malheureusement plus beaucoup aujourd'hui.
Radcliffe Hall, qui est un peu un des premiers textes d'une femme qui se reconnaît dans les nouveaux concepts d'invertis, qui sont des concepts fabriqués, on a eu d'autres occasions d'en parler, on n'a pas des cadeaux, mais qui sont des concepts fabriqués pour parler de tout ce qu'est la perversion, et tout ce qu'est la perversion, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne pratique pas le coït bite dans vagin, quoi.
Reproductif.
Pas forcément. Il n'a pas d'enjeu sur la reproduction. Non, il s'en fout. Non, c'est vraiment plutôt sur des trucs de mœurs, quoi. Je veux dire. Ce qui n'est pas la perversion, c'est bite dans vagin. Voilà. Du coup, pour pas vous laisser sur cette petite phrase qui nous emmerde un petit peu, on avait envie de vous faire une conclusion un peu...
pleine de fougue.
Pleine de fougue, voilà. Et on avait envie de vous dire, mais en fait, on est plein à écrire. On est plein à avoir nos textes dans les placards, on est plein à écrire des lettres, on est plein à avoir tout ça. Et en fait, il est temps qu'on s'y mette, il est temps qu'on partage de quelque manière que ce soit possible. Alors, peut-être pas en accédant à l'édition tout de suite, parce que c'est pas évident, mais en fait, ça vaut le coup de chercher et ça vaut le coup d'essayer.
Et ça vaut le coup de se battre aussi.
Ouais.
Pour faire exister nos narrations, pour faire exister nos histoires en dehors des boîtes dans lesquelles on veut nous caser, pour pas disparaître, pour pas que nos figures soient manipulées, pour pas qu'on soit effacé par l'histoire hétérosexuelle. Et peut-être qu'on pourrait rappeler, parce que la citation que tu soulignais à Mrs. Roots, qui est une critique afroféministe et une autrice, qui citait Toni Morrison et qui disait en gros, si tu veux lire un bouquin que tu peux pas trouver dans une librairie, en fait il faut l'écrire. Et peut-être que c'est une bonne idée de se laisser là-dessus et de vous laisser à vos claviers, plumes ou autres instruments d'écriture avec une dernière chanson qui est un morceau qui s'appelle Palabras como balas, qui veut dire les mots sont des balles,
de Boca del Baba, qui est vraiment là-dessus, qui est vraiment sur la puissance des mots et comment est-ce qu'il faut, il faut sortir nos textes des placards et s'y mettre, quoi. Voilà, c'est une invitation. Et si vous êtes des lesbiennes qui vous nous écoutez, eh bien vous avez bien vu qu'il y avait un manque chez Violette & Co d'essais politiques. Alors n'hésitez pas, on s'y met et ça va être bien. Ou quoi que ce soit d'autre.
La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré en la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar mi sed. Nos encontramos hace rato y con la guasa, aunque lo olvide el tiempo pasa en general. Y a veces pesa, contracturada, espalda tiesa, de tanta mochila espesa, un día cargada por sorpresa. Recuerdo empezar, cómo se empieza, olvida un beso nervioso bajo la cama o la mesa. Descubrir el dolor como una musa, de venir montaña rusa, del infierno a las estrellas. Dibujar la primavera con mi mano entre las piernas, aún poder subir más alto escribiendo una escalera. Recuerdo tomar mi rumbo, sonrojarme ante dos rombos, reírme con los colegas entre patadas y combos. Convertir al papa en polvo, conocerme dando tumbos, descubrir en las palabras un refugio, una lumbre, una escapada, tantos mundos, todos los mundos. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras, que me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como balas, dame palabras, que me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras.
Salir del cajón, compartir. Sin vergüenzas, así.
Cabían 10.000 vidas en aquella habitación. Dosis de poesía, cada día mi ración. Pasión o distracción siempre a escondidas. Un subidón de libertad que a duras penas compartía. El miedo a hablar de corazón era razón. Para hacer de ese cajón el esbozo de su prisión. Luego llegó la acción y en la emboscada encontré algunas hermanas, se cruzaron las miradas. Inventamos el amor y la ansiedad y la pereza. Cogimos fuerza en las piernas saltando muros y vallas. Seguía el rap en mi cabeza, buen canal para la violencia. Con paciencia me decía, ponte fuerte, ármate, llama. No hay ciencia para entenderlo, cómo fluye la conciencia. Rimando como quien reza, hacerse devota, confesa. De esta guerra de miseria que nos puede en la carrera. Esta guerra que nos duele pero nos mantiene alerta. Y nos miran los señores de gris con sus carteras. Y comentan todos serios como gente que comenta. Que quisieran aún más celdas y cadenas pa' tanta fiera. Despierta en la era de la luna llena. A ratos dudo del camino escogido. Tiempo perdido en el limbo de sin razón carcomido. Esto abolido, te miro. Nos veo andar el camino.
Nadie nos quita lo inventado.
Nadie nos quita lo vivido.
¿Sabes?
Hoy no haremos lo que es debido.
Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras. Que me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como alas, dame palabras, que me alargaré hasta el alba, que me salvarán tus...